Littérature Audio a le plaisir de vous présenter une comédie de Molière, Don Juan ou le festin de Pierre. Les personnages. Don Juan, fils de Don Louis. Sganarel, valet de Don Juan. Elvire, femme de Don Juan. Gusman, écuyer d'Elvire. Don Carlos, Don Alonso, frère d'Elvire. Don Louis, père de Don Juan. Francisque, pauvre. Charlotte, maturine, paysanne. Pierrot, paysan. La statue du commandeur. La Violette, ragotin, laquais de Don Juan. Monsieur Dimanche, marchand. La Ramée, spadassin. Un spectre. La scène est en Sicile. Acte 1, scène première. Sganarel, Gusman. Sganarel tenant une tabatière.
Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve? On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là.
Elle a raison encore. Dis-moi, je te prie, Sganarel, qui peut inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur qu'il est obligé à partir?
Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelque lumière.
Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Don Elvire?
Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage.
Un homme de sa qualité ferait une action si lâche?
Oui, sa qualité. La raison en est belle et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses.
Mais les saints du mariage le tiennent engagé.
Eh, mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan.
Je ne sais pas, de vrai, quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point, comme après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole.
Je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi, et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, internos, que tu vois en Don Juan mon maître, le plus grand scélérat, que la terre ait jamais porté un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau d'Épicure, en vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire, et qui traite de bilviser tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autres pièges pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris, et changes de couleur à ce discours. Et ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Ah, le voilà qui vient se promener dans ce palais, séparons-nous. Écoute au moins, je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche, mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti.
Scène 2. Don Juan, Sganarelle.
Quel homme te parlait, là ?
Il a bien l'air, ce me semble, du bon Guzman de Doña Elvire.
C'est quelque chose aussi, à peu près de cela.
Quoi ? C'est lui ?
Lui-même.
Et depuis quand est-il en cette ville ?
D'hier au soir.
Et quel sujet l'amène ?
Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter.
Notre départ, sans doute.
Le bonhomme en est tout mortifié, et m'en demandait le sujet.
Et quelle réponse as-tu faite ?
Que vous ne m'en aviez rien dit.
Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus ? Que t'imagines-tu de cette affaire ?
Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête.
Tu le crois ?
Oui.
Ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée.
Eh, hey, mon Dieu ! Je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place.
Et tu ne trouves pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte ?
Eh, monsieur...
Quoi ? Parle !
Assurément que vous avez raison, si vous le voulez. On ne peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire.
Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments.
En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites.
Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et, comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre.
Qu'as-tu à dire là-dessus ?
Ma foi, j'ai à dire... Je ne sais, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, une autre fois je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous.
Tu feras bien.
Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis, tant soit peu, scandalisé de la vie que vous menez ?
Comment ? Quelle vie est-ce que je mène ?
Fort bonne, mais par exemple, de vous voir tous les mois, vous marier comme vous faites.
Y a-t-il rien de plus agréable ?
Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais, monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré
et... Va, va ! C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu t'en mettes en peine.
Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin.
Oh là, maître Sceau ! Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances.
Je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts, parce qu'ils croient que cela leur sait bien. Si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face... Osez-vous bien ainsi vous jouer du ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes, je parle au maître que j'ai dit, c'est bien à vous à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités ? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort et que...
Mais...
De quoi est-il question ?
Il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur, et qu'entraîné par ses appas, je l'ai suivie jusque en cette ville.
Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois ?
Et pourquoi craindre ? Ne l'ai-je pas bien tué ?
Fort bien, le mieux du monde, il aurait tort de se plaindre.
J'ai eu ma grâce de cette affaire.
Oui, mais cette grâce n'éteint pas peut-être le ressentiment des parents et des amis, et...
Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée. la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui-même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur, et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurai un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles, et j'ai recours au dernier remède. Cet époux, prétendu, doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour, et j'ai une petite barque et des gens avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle.
Ah, monsieur !
Hein ?
C'est fort bien fait à vous, et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien tel en ce monde que de se contenter.
Don Juan s'éloigne.
Prépare-toi donc à venir avec moi, et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes, afin que...
Il aperçoit Donia Elvire.
Ah, rencontre fâcheuse ! Traître, tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même.
Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé.
Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne?
Scène 3. Don Elvire, Don Juan, Sganarelle.
Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de bien vouloir me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté?
Madame, je vous avoue que je suis surpris, que je ne vous attendais pas ici.
Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime, d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminelle à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier.
Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti.
Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît.
Eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons.
Allons, parle donc à madame.
Que voulez-vous que je dise?
Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt.
Tu ne répondras pas?
Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur.
Veux-tu répondre, te dis-je?
Madame...
Quoi?
Monsieur...
Si.
Madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes, sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire.
Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères?
Madame, à vous dire la vérité...
Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez tout ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes.
Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée, et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras, que par...
Ah, scélérat, c'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie.
Scannarelle, le ciel.
Vraiment oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Hein.
Madame.
Il suffit, je n'en veux pas ouïr davantage, et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur, au premier mot, doit prendre son parti. N'attends pas ici que j'éclate en reproches et en injures. Non, non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée.
Si le remords le pouvait prendre.
Don Juan, après une petite réflexion.
Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse.